Chapitre 5e. Deslauriers avait emporté de chez Frédéric la copie de l'acte de subrogation, avec une procuration en bonne forme lui conférant de plein pouvoir. Mais quand il eut remonté ses 5 étages et qu'il fut seul, au milieu de son triste cabinet, dans son fauteuil de basane, la vue du papier timbré l'écœura. Il était là de ces choses, et des restaurants à 32 sous, des voyages en omnibus, de sa misère, de ses efforts. Il reprit les paperasses. D'autres se trouvaient à côté. C'étaient les prospectus de la compagnie houillère avec la liste des mines et le détail de leur contenance. Frédéric lui ayant laissé tout cela pour avoir dessus son opinion. Une idée lui vint, celle de se présenter chez M. d'Ambreuse et de demander la place de secrétaire. Cette place, bien sûr, n'allait pas sans l'achat d'un certain nombre d'actions. Il reconnut la folie de son projet et se dit « Oh non, ce serait mal ». Alors il chercha comment s'y prendre pour recouvrer les 15 000 francs. Une pareille somme n'était rien pour Frédéric. Mais s'il l'avait eu, lui, quel levier! Et l'ancien clerc s'indigna que la fortune de l'autre fût grande. Il en fait un usage pitoyable, c'est un égoïste. Et je me moque bien de ces 15 000 francs. Pourquoi les avait-il prêtés? Pour les beaux yeux de Madame Arnoux. Elle était sa maîtresse. Deslauriers n'en doutait pas. Voilà une chose de plus à quoi sert l'argent. Des pensées haineuses l'envahirent. Puis, il songea à la personne même de Frédéric. Elle avait toujours exercé sur lui un charme presque féminin. Et il arriva bientôt à l'admirer pour un succès dont il se reconnaissait incapable. Cependant, est-ce que la volonté n'était pas l'élément capital des entreprises? Et puisqu'avec elle, on triomphe de tout? Ah, ce serait drôle. Mais il eut honte de cette perfidie. Et une minute après, « Bah, est-ce que j'ai peur ?» Madame Arnoux, à force d'en entendre parler, avait fini par se peindre dans son imagination extraordinairement. La persistance de cet amour l'irritait comme un problème. Son austérité un peu théâtrale l'ennuyait maintenant. D'ailleurs, la femme du monde, ou ce qu'il jugeait-elle, éblouissait l'avocat comme le symbole et le résumé de 1000 plaisirs inconnus. Pauvre, il convoitait le luxe sous sa forme la plus claire. Après tout, quand il se fâcherait, tant pis. Il s'est trop mal comporté envers moi pour que je me gêne. Rien ne m'assure qu'elle est sa maîtresse. Il me l'a nié, donc je suis libre. Le désir de cette démarche ne le quitta plus. C'était une épreuve de ses forces qu'il voulait faire. Si bien qu'un jour, tout à coup, il vernit lui-même ses bottes, acheta des gants blancs et se mit en route, se substituant à Frédéric et s'imaginant presque être lui, par une singulière évolution intellectuelle, où il y avait à la fois de la vengeance et de la sympathie, de l'imitation et de l'audace. Il fit annoncer le docteur Deslauriers. Madame Arnoux fut surprise, n'ayant réclamé aucun médecin. « Ah, 1000 excuses, c'est docteur en droit. Je viens pour les intérêts de M. Moreau. » Ce nom parut la troubler. « Tant mieux, » pensa l'ancien clerc. « Puisqu'elle a bien voulu de lui, elle voudra de moi. » S'encourageant par l'idée reçue qu'il est plus facile de supplanter un amant qu'un mari. Il avait eu le plaisir de la rencontrer une fois au palais. Il cita même la date. Tant de mémoire étonna Madame Arnoux. Il reprit d'un ton doucereux. « Vous aviez déjà quelques embarras dans vos affaires. » Elle ne répondit rien, donc c'était vrai. Il se mit à causer de choses et d'autres, de son logement, de la fabrique, puis, apercevant au bord de la glace des médaillons, ah, des portraits de famille, sans doute. Il remarqua celui d'une vieille femme, la mère de Madame Arnoux. Elle a l'air d'une excellente personne, un type méridional, et sur l'objection qu'elle était de Chartres, Chartres, jolie ville. Il en vanta la cathédrale, les pâtés, puis, revenant au portrait, il y trouva des ressemblances avec Madame Arnoux et lui lançait des flatteries indirectement. Elle n'en fut pas choquée et il prit confiance et dit qu'il connaissait Arnoux depuis longtemps. C'est un brave garçon, mais qui se compromet. Pour cette hypothèque, par exemple, on n'imagine pas une étourderie. Oui, je sais, dit-elle en haussant les épaules. Ce témoignage involontaire de mépris engagea Deslauriers à poursuivre. Son histoire de Kaolin, vous l'ignorez peut-être, a failli tourner très mal, et même sa réputation. Un froncement de sourcil arrêta. Alors, se rabattant sur les généralités, il plaignit les pauvres femmes dont les époux gaspillent la fortune. « Mais l'aide à lui, monsieur. Moi, je n'ai rien. »« N'importe, on ne savait pas. » Une personne d'expérience pouvait servir. Il fit des offres de dévouement, exalta ses propres mérites, et il la regardait en face, à travers ses lunettes qui miroitaient. Une torpeur vague la prenait, mais tout à coup, « Voyons l'affaire, je vous prie. » Il exhiba le dossier. « Ceci est la procuration de Frédéric. Avec un titre pareil aux mains d'un huissier qui fera un commandement, rien n'est plus simple. Dans les 24 heures, elle restait impassible, il changea de manœuvre. « Moi, du reste, je ne comprends pas ce qui le pousse à réclamer cette somme, car enfin il n'en a aucun besoin. »« Comment ? Monsieur Moreau s'est montré assez bon. »« Oh, d'accord. » Et Deslauriers entama son éloge, puis vint à le dénigrer, tout doucement, le donnant pour oublieux, personnel, avare. « Je le croyais votre ami, monsieur. Cela ne m'empêche pas de voir ses défauts. Ainsi, il reconnaît bien peu, comment dirais-je, la sympathie. » Madame Arnoux tournait les feuilles du gros cahier. Elle l'interrompit pour voir l'explication d'un mot. Il se pencha sur son épaule et si près d'elle qu'il effleura sa joue. Elle rougit. Cette rougeur enflamma Deslauriers. Il lui baisa la main voracement. « Que faites-vous, monsieur ?» Et debout contre la muraille, elle le maintenait immobile, sous ses grands yeux noirs irrités. « Écoutez-moi, je vous aime. » Elle partit d'un éclat de rire, un rire aigu, désespérant, atroce. Deslauriers sentit une colère à l'étrangler. Il se contint, et avec la mine d'un vaincu, demandant grâce. « Ah, vous avez tort. Moi, je n'irai pas comme lui. »« De qui donc parlez-vous ? De Frédéric. »« Eh, M. Moreau m'inquiète peu, je vous l'ai dit. »« Oh, pardon, pardon. » Puis, d'une voix mordante, et faisant traîner ses phrases, « Je croyais même que vous vous intéressiez suffisamment à sa personne pour prendre avec plaisir. » Elle devint toute pâle. L'ancien clerc ajouta, « Il va se marier. » « Lui ? » ?»« Dans un mois, au plus tard, avec Mademoiselle Roch, la fille du régisseur de M. d'Ambreuse. Il est même parti pour nos gens, rien que pour cela. » Elle porta la main sur son cœur, comme au choc d'un grand coup. Mais tout de suite, elle tira la sonnette. Deslauriers n'attendit pas qu'on le mît dehors. Quand elle se retourna, il avait disparu. Madame Arnoux suffoquait un peu. Elle s'approcha de la fenêtre pour respirer. De l'autre côté de la rue, sur le trottoir, un emballeur en manche de chemise clouait une caisse. Des fiacres passaient. Elle ferma la croisée et vint se rasseoir. Les hautes maisons voisines interceptant le soleil, un jour froid tombait dans l'appartement. Ses enfants étaient sortis. Rien ne bougeait autour d'elle. C'était comme une désertion immense. Il va se marier, est-ce possible ? Et un tremblement nerveux la saisit. Pourquoi cela ? Est-ce que je l'aime ? Puis tout à coup, mais oui, je l'aime, je l'aime. Il lui semblait descendre dans quelque chose de profond, qui n'en finissait plus. La pendule sonna 3 heures. Elle écouta les vibrations du timbre mourir. Il restait au bord de son fauteuil, les prunelles fixes et souriant toujours. La même après-midi, au même moment, Frédéric et Mademoiselle Louise se promenaient dans le jardin que M. Roch possédait au bout de l'île. La vieille Catherine les surveillait, de loin. Ils marchaient côte à côte et Frédéric disait « Vous souvenez-vous que je vous emmenais dans la campagne ?»« Comme vous étiez bon pour moi, » répondit-elle. « Vous m'aidiez à faire des gâteaux avec du sable, à remplir mon arrosoir, à me balancer sur l'escarpolette. » Toutes vos poupées qui avaient des noms de reines et de marquises, que sont-elles devenues ? Ma foi, je n'en sais rien. Et votre roquet, Moricaud ? Il s'est noyé, le pauvre chéri. Et le Don Quichotte, dont nous colorions ensemble les gravures ? Je l'ai encore. Il lui rappela le jour de sa première communion, et comme elle était gentille aux vêpres, avec son voile blanc et son grand cierge, pendant qu'elle défilait tout autour du cœur et que la cloche tintait. Ses souvenirs, sans doute, avait peu de charme pour Mademoiselle Roch. Elle ne trouva rien à répondre, et une minute après, « Méchant, qui ne m'a pas donné une seule fois de ses nouvelles ?» Frédéric objecta ses nombreux travaux. « Qu'est-ce donc que vous faites ?» Il fut embarrassé de la question, puis dit qu'il étudiait la politique. « Ah !» Et sans demander davantage, « Cela vous occupe, mais moi ?» Alors elle lui conta l'aridité de son existence, n'ayant personne à voir, pas le moindre plaisir, la moindre distraction. Il désirait monter à cheval. Le vicaire prétend que c'est inconvenant pour une jeune fille. Est-ce bête, les convenances ? Autrefois, on me laissait faire tout ce que je voulais. À présent, rien. Votre père vous aime, pourtant. Oui, mais... Et elle poussa un soupir qui signifiait « Cela ne suffit pas à mon bonheur. » Puis il y eut un silence. Ils n'entendaient que le craquement du sable sous leurs pieds avec le murmure de la chute d'eau, car la Seine, au-dessus de nos gens, est coupée en deux bras. Celui qui fait tourner les moulins dégorge en cet endroit la surabondance de ses ondes pour rejoindre plus bas le cours naturel du fleuve. Et lorsqu'on vient des ponts, on aperçoit à droite, sur l'autre berge, un talus de gazon que domine une maison blanche. À gauche, dans la prairie, des peupliers s'étendent, et l'horizon en face est borné par une courbe de la rivière. Elle était plate comme un miroir. De grands insectes patinaient sur l'eau tranquille. Des touffes de roseaux et des joncs la bordent inégalement. Toutes sortes de plantes venues là s'épanouissaient en boutons d'or, laissaient pendre des grappes jaunes, dressaient des quenouilles de fleurs amarantes, faisaient au hasard des fusées vertes. Dans une anse du rivage, des nymphéas s'étalaient, et un rang de vieux saules cachant des pièges à loups était, de ce côté de l'île, toute la défense du jardin. En deçà, dans l'intérieur, quatre murs à chaperon d'ardoise enfermaient le potager, où les carrés de terre, labourés nouvellement, formaient des plaques brunes. Les cloches des melons brillaient à la file sur leur couche étroite. Les artichauts, les haricots, les épinards, les carottes et les tomates alternaient jusqu'à un plant d'asperges qui semblait un petit bois de plumes. Tout ce terrain avait été, sous le directoire, ce qu'on appelait une folie. Les arbres, depuis lors, avaient démesurément grandi. De la clématite embarrassait les charmilles, les allées étaient couvertes de mousse, partout les ronces foisonnaient. Des tronçons de statues émiettaient leurs plâtres sous les herbes. On se prenait en marchant dans quelques débris d'ouvrage en fil de fer. Il ne restait plus du pavillon que deux chambres au rez-de-chaussée avec des lambeaux de papier bleu. Devant la façade s'allongeait une treille à l'italienne où, sur des piliers en briques, un grillage de bâtons supportait une vigne. Ils vinrent là-dessus tous les deux et comme la lumière tombait par les trous inégaux de la verdure, Frédéric, en parlant à Louise de côté, observait l'ombre des feuilles sur son visage. Elle avait dans ses cheveux rouges, à son chignon, une aiguille terminée par une boule de verre imitant l'émeraude. Et elle portait, malgré son deuil, tant son mauvais goût était naïf, des pantoufles en paille garnies de satin rose, curiosité vulgaire, achetées sans doute dans quelque foire. Il s'en aperçut et l'en complimenta ironiquement. « Ne vous moquez pas de moi, » reprit-elle. Puis, le considérant tout entier, depuis son chapeau de feutre gris jusqu'à ses chaussettes de soie, « Comme vous êtes coquet !» Ensuite, elle le pria de lui indiquer des ouvrages à lire. Il en nomma plusieurs et elle dit « Oh, comme vous êtes savant !» Toute petite, elle s'était prise d'un de ces amours d'enfant qui sont à la fois la pureté d'une religion et la violence d'un besoin. Il avait été son camarade, son frère, son maître, avait amusé son esprit, fait battre son cœur et versé involontairement jusqu'au fond d'elle-même une ivresse latente et continue. Puis, il l'avait quittée en pleine crise tragique, sa mère à peine morte. Les deux désespoirs se confondant. L'absence l'avait idéalisée dans son souvenir. Il revenait, avec une sorte d'auréole, et elle se livrait ingénument au bonheur de le voir. Pour la première fois de sa vie, Frédéric se sentait aimé, et ce plaisir nouveau, qui n'excédait pas l'ordre des sentiments agréables, lui causait comme un gonflement intime, si bien qu'il écarta les deux bras en se renversant la tête. Un gros nuage passait alors sur le ciel. « Il va du côté de Paris, » dit Louise. « Vous voudriez le suivre, n'est-ce pas ?»« Moi, pourquoi ?»« Qui sait ?» Et le fouillant d'un regard aigu. « Peut-être que vous avez là-bas, » elle chercha le mot, « quelque affection. »« Eh, je n'ai pas d'affection. »« Bien sûr. »« Mais oui, mademoiselle, bien sûr. » En moins d'un an, il s'était fait dans la jeune fille une transformation extraordinaire qui étonnait Frédéric. Après une minute de silence, il ajouta « Nous devrions nous tutoyer comme autrefois, voulez-vous ? Non, pourquoi ? Parce que... » Il insistait. Elle répondit, en baissant la tête « Je n'ose pas. » Ils étaient arrivés au bout du jardin, sur la grève du Livon. Frédéric, par gaminerie, se mit à faire des ricochets avec un caillou. Elle lui ordonna de s'asseoir, il obéit, puis, en regardant la chute d'eau, « C'est comme le Niagara. » Il vint à parler des contrées lointaines et de grands voyages. L'idée d'en faire la charmait. Elle n'aurait eu peur de rien, ni des tempêtes, ni des lions. Assis, l'un près de l'autre, ils ramassaient devant eux des poignées de sable, puis les faisaient couler de leurs mains tout en causant. Et le vent chaud qui arrivait des plaines leur apportait par bouffées des senteurs de lavande, avec le parfum du goudron s'échappant d'une barque derrière l'écluse. Le soleil frappait la cascade. Les blocs verdâtres du petit mur où l'eau coulait apparaissaient comme sous une gaze d'argent se déroulant toujours. Une longue barre d'écume rejaillissait aux pieds en cadence. Cela formait ensuite des bouillonnements, des tourbillons, mille courants opposés, et qui finissaient par se confondre en une seule nappe limpide. Louise murmura qu'elle enviait l'existence des poissons. Ça doit être si doux de se rouler là-dedans, à son aise, de se sentir caressée partout. Et elle frémissait, avec des mouvements d'une câlinerie sensuelle. Mais une voix cria « Où es-tu ?»«
Votre bonne nouvelle vous appelle, » dit Frédéric.
« Bien, bien. » Louise ne se dérangeait pas.
« Elle va se fâcher, »
reprit-il. « Cela m'est égal. » Et d'ailleurs, Mademoiselle Roque faisant comprendre par un geste qu'elle la tenait à sa discrétion. Elle se leva pourtant, puis se plaignit de mal de tête, et comme il passait devant un vaste hangar qui contenait des bourrées, « Si nous nous mettions dessous, à l'ego. » Il feignit de ne pas comprendre ce mot de patois, et même la taquina sur son accent. Peu à peu, les coins de sa bouche se pincèrent, elle mordait ses lèvres, elle s'écarta pour bouder. Frédéric la rejoignit, jura qu'il n'avait pas voulu lui faire de mal et qu'il l'aimait beaucoup.
« Est-ce vrai ? » s'écria-t-elle, en le regardant avec un sourire qui éclairait tout son visage, un peu semé de taches de sang.
Il ne résista pas à cette bravoure de sentiment, à la fraîcheur de sa jeunesse, et il reprit
« Pourquoi te mentirais-je ? Tu en doutes, hein ?»
en lui passant le bras gauche autour de la taille.
Un cri, suave comme un roucoulement, jaillit de sa gorge. Sa tête se renversa, elle défaillait, il la soutint. Et les scrupules de sa probité furent inutiles. Devant cette vierge qui s'offrait, une peur l'avait saisie.
Il l'aida ensuite à faire quelques pas, doucement. Ses caresses de langage avaient cessé. Et ne voulant plus dire que des choses insignifiantes, il lui parlait des personnes de la société nogentaise. Tout à coup, elle le repoussa, et d'un ton amer. « Tu n'aurais pas le courage de m'emmener. » Il resta immobile avec un grand air d'ébahissement. Elle éclata en sanglots, et s'enfonçant sa tête dans sa poitrine.
« Est-ce que je peux vivre sans toi ?»
Il tâchait de la calmer. Elle lui mit les deux mains sur les épaules pour le mieux voir en face, et dardant contre les siennes ses prunelles vertes, d'une humidité presque féroce.
« Veux-tu être mon mari ?»«
Mais, » répliqua Frédéric, cherchant quelques réponses.
« Sans doute, je ne demande pas mieux. »
À ce moment, la casquette de M. Roque apparut derrière un lilas. Il emmena son jeune ami pendant 2 jours faire un petit voyage aux environs, dans ses propriétés. Et Frédéric, lorsqu'il revint, trouva chez sa mère 3 lettres. La première était un billet de M. d'Ambreuse, l'invitant à dîner pour le mardi précédent. À propos de quoi cette politesse ? On lui avait donc pardonné son incartade ? La seconde était de Rosanette. Elle le remerciait d'avoir risqué sa vie pour elle. Frédéric ne comprit pas d'abord ce qu'elle voulait dire. Enfin, après beaucoup d'embâges, elle implorait de lui, en invoquant son amitié, se fiant à sa délicatesse, à 2 genoux, disait-elle, vu la nécessité pressante et comme on demande du pain, un petit secours de 500 francs. Il se décida tout de suite à les fournir. La 3e lettre, venant de Deslauriers, parlait de subrogation et était longue, obscure. L'avocat n'avait pris encore aucun parti. Il l'engageait à ne pas se déranger. « C'est inutile que tu reviennes », appuyant même là-dessus avec une insistance bizarre. Frédéric se perdit dans toutes sortes de conjectures, et il eut envie de s'en retourner là-bas. Cette prétention au gouvernement de sa conduite le révoltait. D'ailleurs, la nostalgie du boulevard commençait à le prendre, et puis sa mère le pressait tellement, M. Roque tournait si bien autour de lui, et Mademoiselle Louise l'aimait si fort, qu'il ne pouvait rester plus longtemps sans se déclarer. Il avait besoin de réfléchir, et jugerait mieux les choses dans l'éloignement.
Pour motiver son voyage, Frédéric inventa une histoire et il partit en disant à tout le monde et croyant lui-même qu'il reviendrait bientôt.